Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission, enfin deux émissions sur un même thème, avec Françoise Gernot. Bonjour Françoise.
Bonjour, bonjour Sylviane, bonjour à toutes et à tous.
Alors le sujet de ces deux émissions, vous l'avez intitulé « Le citoyen et la patride », donc un double titre que vous allez nous expliquer. Et j'ai l'impression que c'est lié tout de même à l'actualité ou pas forcément ?
Oui, alors nous allons voir, c'est d'une certaine manière ce que les surréalistes appelaient un hasard objectif.
Voilà, vous parlez parce que, bien sûr oui, de la panthéonisation.
Parce que bien sûr, un apatride... Et un couple d'apatrides vient d'être reçu de manière tout à fait sublime. Enfin,
au Panthéon.
Ils sont entrés donc au Panthéon.
Donc le citoyen et l'apatride, que vous avez organisé ces deux émissions en trois points, je vous les laisse citer.
Oui, non, mais c'est simplement pour expliquer dans une introduction quelles ont été mes intentions. Alors d'abord, pourquoi ce double titre ? Enfin, vous le savez, la philosophie classique, depuis Aristote, et bien sûr nous allons lire Aristote, la philosophie classique a élaboré une définition du citoyen et de la citoyenneté. Le citoyen est appelé ainsi dès lors qu'il est membre de la communauté, mais de la communauté politique. Nous le verrons bien sûr avec ce texte absolument fondateur, hein, celui, disais-je à l'instant, d'Aristote.
Mais alors cette communauté politique dans l'Antiquité, c'était la cité.
C'est ce qu'on appelait polis, la polis, la cité. Hein. En grec, en latin c'est un peu différent, la perspective est différente. Donc, il m'a paru judicieux d'interroger la condition et le statut, condition et statut de citoyen à partir de la possibilité, je dirais de son contraire absolu. De la réalité, hélas, historique, de la condition d'apatride. Je m'explique en quelques mots sur ce que signifie ce terme d'apatride. L'apatride, donc, est celui qui est, par définition, privé de patrie. Étant privé de patrie, n'ayant pas en quelque sorte d'appui par l'État-nation auquel il devrait appartenir, il n'a plus, il a perdu ses droits à la citoyenneté. Alors, il s'agit d'abord de droits civils, mais aussi de droits politiques. Ce concept d'apatride donc, qualifie un homme, je vais employer les termes en leur langue, un homme sans patrie, en allemand Heimatlos, Heimat, Heimat, la patrie, le foyer national en quelque sorte, sans État, en anglais, stateless. Alors, je rappelle que le livre qui sera ma référence finale est déjà dès l'origine, le livre d'Anna Arendt est rédigé donc en anglais, donc stateless. Et étant stateless, ils sont rightless, sans droit. Hein. Le mot apatride, en revanche, est en français, a été forgé en français dans la mesure où il s'agissait d'une dénomination d'un statut très particulier, nous allons le voir à l'issue de la Première Guerre mondiale.
Oui, puis donc, en parallèle de la SDN, je suppose.
Tout à fait, oui, nous allons le voir, oui. Apatride, donc. Apatride, le mot est conservé en français dans le texte en anglais de Hannah Arendt. Cette approche, si vous voulez, cette approche purement théorique, il se trouve qu'elle a croisé un événement de l'actualité, nous l'avons évoqué à l'instant. Cet événement de l'actualité, c'est bien sûr cette cérémonie, je dirais sublime, cette cérémonie sublime d'entrée au Panthéon de Missak Manouchian et de son épouse. Je rappelle, mais nous le savons maintenant, que l'un et l'autre sont précisément apatrides. Et Missak Manouchian et son épouse disposaient d'un passeport particulier, qui était d'ailleurs rédigé en français, c'est bien la langue française qui était à l'époque la langue diplomatique, qu'on appelle donc le passeport Nansen. J'y reviendrai, je pense. Hein.
Mais je vous reprends, excusez-moi, parce que vous dites les apatrides ont perdu les droits, mais certains n'ont jamais eu de droits, enfin, dans l'Antiquité.
Non. Dans l'Antiquité, on ne peut pas parler d'apatride. L'apatride est une... L'apatridie
est une notion...
L'apatridie est une notion du droit international moderne.
De 1918. Oui,
essentiellement du XXe siècle.
D'accord.
Bon, elle perdure parce que, par exemple, aujourd'hui, les Rohingyas sont des apatrides. Mmh. Alors, vraiment, leur situation témoigne très bien, si on veut un exemple contemporain, de ce que peut être cette vie sans État, sans droit, où on est ballotté d'un pays à un autre. Mmh. Bon, sans même la sécurité de pouvoir survivre. Je me propose donc de construire nos analyses par la lecture de trois auteurs qui élucident ce que signifie la citoyenneté et sa privation. La petite caractérisation du mot, évidemment, est très, très, très insuffisante. Hein. Je propose une remarque préalable. Les trois auteurs dont je vais parler, dont je vais citer des moments essentiels, je pense, de leur récit philosophique. Parfois, il s'agit de récits philosophiques. Ces trois auteurs, donc, ont éprouvé dans leur vie cette condition d'apatridie, si on veut projeter dans les temps antérieurs, cette notion dont je dis qu'elle est moderne. Qui est Aristote? Eh bien, Aristote, mon premier élément d'étude, l'œuvre d'Aristote. Aristote est ce qu'on appelle en Grèce un métèque.
Oui.
C'est-à-dire qu'il vit à Athènes. Enfin, pour l'essentiel de son œuvre son institution qui s'appelle le lycée. Hein, pour le lycée, l'essentiel de son œuvre, elle se place dans une période où Aristote, donc, vit à Athènes. Or, à Athènes, il est métèque, ça veut dire qu'il est étranger, c'est un étranger de prestige, mais il n'a pas accès précisément au droit à la citoyenneté. Je m'en expliquerai peut-être si j'ai un peu plus le temps, parce qu'Aristote lui-même a défini dans son livre, le livre que je vais prendre en référence, ce statut de métèque, par différence avec celui de citoyen.
Alors, du moment remarque, que vous venez d'une autre ville, d'une autre police, vous êtes un métèque.
Vous venez d'ailleurs.
Vous n'êtes pas
citoyen, ça veut dire que vous n'êtes pas autochtone. Hein. Il y a à Athènes une règle de l'autochtonie, c'est-à-dire de la lignée du sol, qui justifie et légitime votre droit à être véritablement citoyen. Politesse en grec. Hein. Jean-Jacques Rousseau, en second lieu. Jean-Jacques Rousseau, lui, est un citoyen à éclipse de la ville de Genève, et je m'en expliquerai. Quant à Hannah Arendt, qui est évidemment ma caution intellectuelle pour tout cet exposé, Hannah Arendt a été véritablement une apatride. Juive allemande, en 1933, elle saisit bien l'extraordinaire dangerosité du régime nazi. Elle s'exile. Elle s'exile essentiellement en France
et plus tard
aux États-Unis, très tôt. Elle a tout compris très tôt. Oui. Ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est que ces trois auteurs, enfin vraiment indispensables, ont vécu, disais-je, dans leur biographie, cette situation d'être hors État, mais en même temps, ils ont créé à partir de cette expérience une très très forte réflexion théorique.
Parce qu'elle se sentait personnellement concernée.
Oui, mais ce n'est pas parce qu'on se sent concerné qu'on édifie pour autant une œuvre d'une très grande architectonique, d'une très grande vigueur intellectuelle.
Comme cette émission parle des apatrides, ça nous a semblé très logique, Françoise, de choisir un visuel d'ailleurs d'un peintre apatride, Chagall, Over the Town,
qui reçoit la nationalité française cependant en 1937.
Et puis en musique, nous avons choisi deux apatrides aussi très célèbres, Rachmaninov et Stravinsky. Donc on va écouter un extrait, enfin le début de la symphonie numéro 2 de Rachmaninov.
Oui, une petite remarque aussi, les premiers apatrides désignés comme tels par la SDN sont les Russes blancs qui fuient la Russie devenue bolchevique.
Alors, sur Radio Alliance Plus, après cette introduction et l'annonce du plan par Françoise, vous allez, Françoise, commencer les lectures, et donc la lecture du texte très célèbre d'Aristote dans La Politique.
Oui, alors nous avons tous entendu au moins cette phrase très célèbre d'Aristote, « L'homme est un animal politique ». Alors, voyons de plus près, en lisant justement le livre 1, le chapitre 1 du livre 1. Voici ce que nous dit Aristote. Alors, je lis d'abord, et puis je vais décortiquer ce texte, parce qu'il est riche de toute une série de prolongements qui vraiment peuvent nous interroger. Bon. Il est manifeste, je lis, il est manifeste que la cité fait partie des choses naturelles, et que l'homme est, par nature, un animal politique. Et que celui qui est hors cité, naturellement, bien sûr, et non par le hasard des circonstances, est soit un être dégradé, soit un être surhumain. Et il est comme celui qui est injurié, interpellé par Homère, sans lignage, sans loi, sans foyer. Je m'arrête provisoirement ici, et comme je vous le propose, je décortique. La cité fait partie des choses naturelles, ou bien en grec, plus précisément, la cité est par nature, kataphysis. Cela veut dire que tout commence avec la constitution d'une communauté qui a vocation à être politiquement organisée. Donc, en Grèce et en grec, la cité, polis, précède en quelque sorte la citoyenneté. En droit, bien sûr plutôt qu'en fait, mais en droit. Le mot grec, je viens de le prononcer, c'est le mot polis. Polis, qui donne évidemment notre mot politique. Alors, qui désigne la cité, avec un C majuscule, qui désigne aussi ce que nous pourrions appeler l'État, à condition de penser l'État comme Athènes, comme cité-État précisément. Alors, je recommence. Donc, tout se passe comme si tout commençait par la cité, la cité étant par nature, je dirais presque le propre de l'homme. Quant à l'homme, il est lui, par nature, c'est-à-dire essentiellement un animal politique, zoon politikon, un animal politique. On oublie un peu qu'il s'agit d'abord d'un animal, zoon, c'est-à-dire d'un vivant. C'est-à-dire que pour la pensée grecque pour Aristote, il y a certainement une distinction entre le simple fait de vivre et le bien-vivre, ce qu'il appelle le bien-vivre, qui suppose évidemment une insertion active dans la collectivité de la cité. Je continue. Alors, plus intéressant apparaît ici. Je reprends et je relis à nouveau. L'homme est par nature un animal politique et celui qui est hors cité. En grec, a polis. En italien, entre parenthèses, on a traduit le mot français apatride par apolide. Donc on a gardé.
On retrouve la même racine.
Le mot grec, oui. Celui qui est hors cité, donc apolis, apolide, est soit un être dégradé, je traduis autrement, soit un être inférieur, soit un être supérieur à l'homme. Il est comme celui qui est interpellé violemment par Homère, sans lignage, sans loi, sans foyer. Il s'agit donc d'une citation de l'Iliade. Je rappelle très rapidement, il y a une zizanie dans le camp des Achéens. Agamemnon veut renoncer parce que ça se passe très très mal, et Diomède, au contraire, veut continuer la bataille. Bon, on connaît ce genre de dilemme encore aujourd'hui. Et bon, le grand sage Nestor fait la paix en disant qu'il ne s'agit pas d'introduire la guerre civile, parce que la guerre civile, elle est fomentée par un être qui est sans lignage, sans loi, sans foyer. Alors là, on retrouverait aussi des termes qui nous intéressent. Bien. Alors, vous allez me demander, qu'est-ce que cela signifie? Que signifie donc cette hypothèse selon laquelle il y aurait un homme civil et civique et inférieur à lui un homme sans foyer et entre parenthèses, il y a une parenthèse, elle est la suivante, celui qui est hors cité naturellement, bien sûr, et non par le hasard. Autrement dit, l'apatride que va fustiger Aristote, ce n'est pas l'apatride par hasard, celui qui est apatride par le hasard des circonstances. À ce titre, je vous cite Hannah Arendt, qui précise bien les choses. Une fois qu'ils ont quitté leur patrie, il s'agit des réfugiés, ils se sont retrouvés sans patrie. Une fois qu'ils ont abandonné leur État, ils sont devenus apatrides. Une fois qu'ils ont été privés des droits que leur humanité leur conférait, ils se sont retrouvés sans droit, la lie de la terre. Bon. Rien de ce qui était en train de se faire, quelle qu'en fût la stupidité, quel que fût le nombre des gens qui en connaissaient et qui en prédisaient les conséquences, ne put être défait ou dévié dans le caractère inéluctable de cette condition d'apatride. C'est ça qui m'intéresse, c'est la suite. Le moindre événement a pris l'inéluctabilité d'un jugement dernier, jugement qui ne serait l'œuvre ni de Dieu ni du diable, mais ressemblerait plutôt, c'est là où cela rejoint Aristote, à l'expression de quelque irrémédiable et stupide fatalité. Bien sûr, Hannah Arendt connaît parfaitement Aristote. Ce qui légitime, je dirais, cette espèce de droit, même cette existence politique de l'homme, c'est bien sûr que l'homme, à la différence de l'animal, a un logos, dispose d'un langage qui lui permet de définir les valeurs fondamentales de la cité qui consistent à distinguer le juste et l'injuste. Je vais très très vite, mais je réponds à votre question. Votre question, alors rappelez-la-moi.
Oui, ce terme de supérieur, de surhumain m'interpelle beaucoup. C'est quoi un surhumain ?
Oui, alors, et à polis, sans état, sans cité. Alors celui-là, par nature, et non pas par le hasard des circonstances, la stupide fatalité dont parle Hannah Arendt. Celui-là, il est, rappelons le texte qui est très violent, le texte d'Aristote, celui qui n'est pas capable d'appartenir à une communauté ou qui n'en a pas besoin parce qu'il se suffit à lui-même n'est en rien une partie d'une cité, si bien que c'est soit une bête, soit un dieu. Je traduis que l'homme qui est, bon, disons sans cité, il est ou bien un fauve déchaîné, prêt à la guerre, il est brutal, il est belliqueux, et l'autre qui dépasse l'homme, eh bien c'est le Dieu. Le Dieu seul a suffisamment d'autonomie pour se passer d'une organisation de type politique. Donc nous sommes entre la bête fauve et le Dieu sublime.
En fait, il n'y a pas l'individualisme. C'est...
Oui, mais en tout cas, l'homme est dans un entre-deux et la bête fauve, comme le Dieu, sont mesurés à l'aune de l'humanité. Je vous rappelle la phrase très célèbre, « L'homme est mesure de toute chose ». Et là, on le voit ici. Alors, j'ai pensé à propos de celui qui est au-delà de la cité et qui vise, et je pense que c'est fantasmatique, à une sorte d'autonomie suprême, j'ai pensé à Elon Musk. Il est l'exemple même, mais évidemment, c'est un fantasme qu'il soutient. Il n'est pas Dieu. La cité, est essentiellement construite à partir de la justice. Or, la vertu de justice est politique, car la justice introduit un ordre dans la communauté politique. Et la justice démarque le juste de l'injuste. Je reprends une thématique que je vais soulever vraiment à l'instant. Par différence, distinction avec celui qui n'est pas citoyen, Aristote définit le citoyen. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que le citoyen est défini par différence négative, avec ce qui se présente d'abord, ce qui se présente d'abord rhétoriquement et philosophiquement comme celui qui est sans cité. Alors, le métèque, c'est le statut d'Aristote, prestigieux certes, mais sans droit de citoyenneté. Il n'est pas le seul, les métèques peuvent être des personnes qui interviennent dans la cité grecque, surtout au point de vue économique et intellectuel, de manière absolument magistrale. Bon, il parle évidemment de l'esclave, on laissera tomber l'esclave. Et voilà ce qu'il dit du citoyen. C'est le citoyen au sens plein, dont le titre n'est besoin d'aucun correctif de ce genre, et pour ceux qui sont privés de leurs droits civiques ou exilés se présentent les mêmes difficultés, les mêmes solutions. c'est un peu obscur, je lis la suite. Un citoyen au sens plein ne peut être mieux défini que par la participation à une fonction judiciaire et à une magistrature. Point.
Oui, les fonctions, ils peuvent accéder à toutes les fonctions.
Tout à fait. C'est, si vous voulez, la vie civique qui détermine le citoyen.
Alors voilà pour l'Antiquité. Passons à Jean-Jacques Rousseau, qui bien sûr en parle dans le contrat social, bien évidemment.
Alors, dans un deuxième temps, il s'agit donc d'une réflexion moderne sur la citoyenneté dont nous savons qu'elle a vigoureusement inspiré la Révolution française, puisqu'on s'interpelle citoyen-citoyenne. Donc, le texte de référence, bien sûr, le livre de référence de Jean-Jacques Rousseau, c'est Le Contrat social. 1762. Ah, j'ai oublié de dire les dates d'Aristote. Excusez-moi. Aristote, donc, a brillé, comme on dit, entre 384 et 322 avant notre ère. Et les textes philosophiques les plus denses sont certainement écrit lorsqu'il était professeur de cette institution qu'il crée, qui est le lycée, donc 355-323. J'en ai fini avec les dates, mais je crois que c'est important de situer aussi les périodes. Donc l'Antiquité, maintenant les temps modernes.
Jean-Jacques Rousseau avait lu Aristote, bien évidemment.
Mais tout le monde a lu Aristote. Aristote a toujours été diffusé, tout le monde a lu Aristote. Je voudrais simplement introduire mes lectures, plurielles elles aussi, de Jean-Jacques Rousseau par les phrases préliminaires du contrat social.
Et nous reprendrons dans la seconde émission.
Alors, je lis le titre du contrat social d'abord, du contrat social ou des principes du droit politique par Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. Et j'enchaîne. Livre 1, prologue. Né citoyen d'un État libre et membre du souverain, quelque faible influence que puisse avoir ma voix dans les affaires publiques, le droit d'y voter, suffit pour m'imposer le devoir de m'en instruire. Heureux, toutes les fois que je médite sur les gouvernements, de trouver toujours dans mes recherches de nouvelles raisons d'aimer celui de mon pays.
Donc nous nous retrouverons pour la seconde émission. Vous reprendrez bien sûr le résumé de cette première, Aristote et Jean-Jacques Rousseau, mais nous avons déjà parlé de Hannah Arendt. Merci François.
Merci.
À bientôt.
Radio Alliance Plus.